www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.
Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au 11e Sans Culottide, un festival qui est plutôt qu'un festival, ce sont des rencontres socioculturelles, dont les objectifs sont multiples. Parmi ces objectifs-là, eh bien, il y a celui du partage, d'échanger des pratiques, d'échanger des valeurs. Et cette année, eh bien, les thèmes sont placés, il y en a trois, autour des luttes sociales, et notamment des mots-clés tels que convergence des luttes, perspective des luttes, au-devant des luttes climatiques et des luttes sociales qui nous encerclent, comme on le voit actuellement avec toutes ces mobilisations qui ont cours à Genève et partout dans le monde. On s'aperçoit que le monde est effectivement assez trouble, hein, des émeutes surgissent ici et là. Nous allons également aborder ce sujet-là, puisque tout au long de ce festival, eh bien, nous aurons des personnes qui vont nous parler du Rojava notamment. Alors le Rojava, on ne va pas en parler beaucoup maintenant, mais le Rojava, c'est une zone géographique qui se situe en Syrie, dans le nord-est de la Syrie, qui a été victime de l'envahissement de l'armée turque, hein, comme vous le savez. Et nous parlerons de ça, mais pas que. Nous savons également qu'au Chili, il se passe des choses, et dans toute l'Amérique latine par ailleurs. Nous allons essayer samedi prochain d'ailleurs de faire un duplex en direct de Santiago del Chile, où une camarade et des personnes en lutte là-bas pourront répondre aux questionnements que nous leur proposerons et avec lesquels nous deviserons un petit moment. Pour en revenir au festival, eh bien, cette année, nous proposons trois expositions dont les artistes seront partiellement parmi nous et s'exprimeront, notamment aujourd'hui, où le thème de cette soirée, c'est celle de l'art et de l'engagement. L'art est-il la caution de l'engagement ou inversement, est-ce que art et engagement sont-ils antagonistes, sont-ils alliés, sont-ils complémentaires? Nous aborderons ça avec des invités que je vais présenter sous peu, dans quelques instants. Mais avant cela, voilà, il y a une première exposition de peinture qui est contre ce mur-là, une deuxième exposition qui est une expo plutôt pédagogique, dont on parlera plutôt samedi par ailleurs, qui est le fruit d'un travail du CLIP, dont l'acronyme désigne le collectif pour la libération de l'invasion publicitaire, qui est en quelques mots l'analogue du GLIP Genevois, Genève, libéré de l'invasion publicitaire. Ainsi qu'une troisième exposition ici, qui est d'ailleurs le fait d'une très jeune artiste qui s'appelle Carla, qui sera probablement parmi nous à un moment donné, mais dont on reparlera. En tout cas, vous êtes invités à déambuler, même pendant le moment de radio, il suffit juste de le faire un petit peu discrètement, pour découvrir ses œuvres et pour évidemment questionner les artistes qui sont parmi nous. Comme je le disais, nous allons parler art et engagement aujourd'hui, art et subversion, deux pôles antagonistes, c'est comme ça qu'on a appelé cette soirée-là. Mais avant cela, je voulais encore citer le Free Shop. Donc en fond de salle, il y a un magasin gratuit. C'est pour nous extrêmement intéressant de faire cette proposition-là chaque année. Un magasin où, bien entendu, vous pouvez saisir tout ce qui vous importe. On a des habits chauds, il y a également quelques jeux de société. Et puis on va constamment le fournir durant ces trois jours-là. Donc n'hésitez pas. Il faut savoir que ce qui va rester de ce Free Shop sera ensuite mené au Silure, puisque au Silure, le 2 février, il y aura également un Free Shop, une grande friperie gratuite qui aura cours, organisée par le Silure, mais qui ne sera pas au Silure. Ouais. Ces émissions radio, comme vous le savez, sont enregistrées. Il n'y a pas de direct ici, pour le simple fait que l'on souhaite que, avant publication, les personnes qui vont s'exprimer puissent se réécouter et valider ce qui a été dit. On n'est jamais à l'abri d'un mauvais mot qui nous a échappé. Et à Libre Radio, eh bien, notre travail, c'est de relayer une parole intelligible, mais qui se questionne, et non pas d'aller voler des morceaux de parole qui ne sont pas souhaités par les locutrices et les locuteurs dans des situations où l'émotionnel pourrait prendre le pas, par exemple. Voilà. Les personnes qui sont parmi nous ici sont bien entendu invitées à tout moment à intervenir. Il faut nous faire un petit signe. On a des micros ouverts exprès pour, tout en respectant bien entendu les usages d'une prise de parole apaisée, etc., etc. Ce soir, nous allons commencer par Claude Teber, à qui je vais poser quand même quelques questions pour qu'il puisse se présenter, que vous puissiez découvrir qui se cache derrière Claude, et que je remercie énormément d'avoir pris un moment. Claude est notamment comédien et acteur, ainsi que metteur en scène, fondateur du théâtre du Sentier. Et il est parmi nous ce soir pour nous proposer une lecture de John Berger, lecture d'un texte qui a été produit au moment où John Berger, qui a obtenu le Booker Prize, donc un prix littéraire, eh bien, a reçu une somme qui était allouée au lauréat et dont il a fait don pour partie au Black Panther. C'était en 1972, ce qui fit, bien entendu, grand bruit, d'autres temps, d'autres mœurs. Les Black Panthers, c'était déjà extrêmement sulfureux à l'époque. Et voilà. Mais alors, avant cette lecture, hein, que tu vas lire dans quelques instants, j'aurais peut-être voulu en savoir un petit peu plus de toi, de ta propre personne. En tant que comédien, la lecture, pour toi, c'est quelque chose qui est important. Le fait de, et je te pose cette question à dessein, puisque toi-même, tu déambules beaucoup pour lire aux gens, pour donner aux gens.
Oui, alors bon, je suis comédien depuis 1968 et j'ai beaucoup joué dans un théâtre où j'étais comédien permanent, c'est-à-dire que je travaillais toute l'année sauf 3 semaines de vacances. C'était les 3 semaines des vacances horlogères à La Chaux-de-Fonds. Pendant 40 ans, j'étais comédien. Ensuite, j'ai créé ce théâtre du Sentier avec Anne-Marie Delbar et Gilles Lambert, et on a produit plusieurs spectacles, une quinzaine, qui se jouent un peu partout. Ça s'appelle le Théâtre du Sentier, non pas parce qu'on vient du village du Sentier, mais parce qu'on va dans les villages, là où il n'y a pas forcément de salle de théâtre, il y a même souvent pas de salle de théâtre. Et donc, on joue dans la rue, on joue dans les salles des fêtes, mais on joue aussi dans les théâtres. Voilà, on va un peu partout. Et puis, très vite, je me suis intéressé à la lecture, parce que quand je suis arrivé ici en Suisse en 1971, je me suis dit, mais quelle est la littérature de ce pays qui m'accueille ? Et j'ai découvert beaucoup d'auteurs. J'en citerai un en particulier parce qu'il m'a bouleversé, c'est Robert Walser. À partir de là, j'ai commencé à faire des lectures un peu partout, dans des librairies, dans des cafés, dans des bibliothèques, dans la rue et aussi beaucoup dans les écoles. Et en ce moment, je fais toute une série de lectures dans les écoles pour les 6-7 ans. Alors, j'avoue que ça me bouleverse, c'est formidable. Et j'ai trouvé mon public. Et voilà, je continue à faire ces lectures, je vais continuer aussi l'année prochaine. Alors, j'entre directement dans la classe, je ne prends qu'une classe à la fois. J'ai un tout petit dispositif et je lis des livres et je parle avec les enfants, j'échange avec les enfants à partir des histoires qui sont racontées.
Ouais. Alors, vous serez invité également à poser des questions à Claude à la fin de la lecture quelques instants, si t'es OK. On va pas t'assommer de questions avant, mais j'en avais quand même une dernière avant que tu ne débutes. Est-ce que tout au long des années, as-tu observé un retour différent des personnes qui écoutent ? Est-ce qu'on écoute mieux ? Est-ce qu'on écoute plus facilement ? Ou inversement, est-ce que c'est plus compliqué ? Est-ce que tu as observé, voilà, est-ce que les lignes bougent ?
J'arriverai pas à dire ça, parce que aujourd'hui, on peut très bien écouter. Demain, les gens peuvent être un peu plus distraits. Ça dépend aussi des livres qui sont lus, de la façon dont ils parlent aux gens. Ça dépend de l'écriture, de l'écrivain. Donc voilà, c'est variable.
Ok. Une toute dernière question. Le théâtre et la lecture, selon toi, ont-elles une fonction sociale, ont-elles une fonction politique ? Et si oui, lesquelles ?
Je pense que toute approche des gens a un caractère, politique. Oui. C'est des mots très complexes. Et je dirais que ce plaisir d'aller vers les gens et de les rencontrer, c'est un travail politique. Appelons-le humaniste, tout ce qu'on tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup de termes comme ça qu'on peut employer pour définir cette chose, mais je crois que ce qui est important pour moi, c'est l'approche des gens, les échanges. Tous les spectacles du Théâtre du Sentier, par exemple, se terminent toujours par un verre, quelque chose à grignoter, et des rencontres avec les gens. Des rencontres qui sont totalement informelles, que personne chez nous ne dirige. Les gens parlent à partir de ce qu'ils ont entendu. Je crois qu'il est important aussi pour les gens d'avoir un lieu où on se raconte. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, surtout, encore plus.
Très bien. John Berger, pour toi, c'est une rencontre. Comment est-elle survenue? Et y a-t-il un avant et un après John Berger, en tout cas ta rencontre avec cet auteur?
Alors John Berger, c'est un auteur que j'ai rencontré il y a une vingtaine d'années, 25 ans, comme ça, au travers de ses livres. Et puis, c'est petit à petit, en lisant ses livres en public, c'est devenu un ami sans que je l'ai rencontré. Et puis tout à coup, je rencontre Katia Berger, qui est sa fille. Je rencontre Yves Berger, qui est son fils. Et petit à petit, on a essayé de faire des choses ensemble, et je crois qu'on va continuer. Et le rapport avec ses enfants m'a beaucoup aidé par rapport à une vision de ce qu'il écrit. Ça a une meilleure compréhension, peut-être, parce que voilà, John Berger, c'est un marxiste,
c'est une figure
très engagé, comme ça, et puis voilà, c'est bien aussi de connaître un tout petit peu de sa vie par ses enfants, même s'ils sont pas très prolixes, c'est vraiment l'œuvre aussi qui les intéresse, mais enfin, c'est important de discuter avec eux.
Mais on peut dire effectivement que John Berger est un auteur engagé, un auteur d'ailleurs pluridisciplinaire, également critique d'art, et dont toute la vie...
Et peintre et poète.
Et peintre, exactement. Ouais. Voilà. Et donc il a fait don de cette partie de la somme au moment où il est lauréat du Booker Prize en 1972.
Voilà.
Très bien. Alors, bonne lecture.
merci
d'avance.
Merci. Donc ça, c'est le texte prononcé lors de la remise du prix du Booker Prize en 1972. Puisque vous m'avez décerné ce prix, peut-être aimeriez-vous savoir en quelques mots ce qu'il signifie pour moi. Les prix entretiennent un climat de rivalité que j'estime personnellement détestable. Dans le cas qui nous occupe, la publication de la liste des finalistes, le suspense délibérément rendu public, la spéculation sur les auteurs concernés comme s'il s'agissait d'une course de chevaux, l'accent mis en permanence sur les gagnants et les perdants, tout cela m'apparaît comme faux et déplacé dans le contexte de la littérature. Néanmoins, l'action exercée par un prix est analogue à un stimulus, non à l'égard des écrivains, mais plutôt des éditeurs, des lecteurs et des libraires. Par conséquent, la valeur culturelle d'un prix dépend d'abord de ce qui est ainsi stimulé. Le conformisme du marché et le consensus du juste milieu, ou la liberté d'imagination chez le lecteur comme chez l'auteur. Si un prix n'encourage que le conformisme, il se contente de légitimer le succès, au sens le plus conventionnel du terme. Il ne constitue rien de plus qu'un nouveau chapitre dans l'histoire d'une réussite. S'il stimule la liberté d'imagination, il encourage l'envie de chercher des alternatives, ou, pour dire les choses très simplement, il encourage les gens à s'interroger. Si le roman a une telle importance, c'est qu'il pose des questions que nulle autre forme littéraire n'est capable de poser. Sur le rapport de chaque individu à son propre destin, sur l'usage qu'on peut faire d'une vie, y compris la sienne. Et ces questions, il les pose d'une façon très personnelle. La voix du romancier fonctionne comme une voix intérieure. Même si cela peut paraître légèrement déplacé de ma part, j'aimerais saluer et remercier le jury de cette année pour son indépendance et son sérieux à cet égard. Les quatre livres qui figurent dans la liste finale font preuve de l'imagination dont je parlais. Le fait que ce jury ait décidé d'accorder son prix à mon livre m'a fait plaisir, parce que c'était comme une réaction. Une réaction venant d'autres écrivains. J'ai mis 5 ans à écrire « J'ai ». J'ai déjà réfléchi à ce que j'allais faire des 5 prochaines années de ma vie. J'ai commencé un projet sur les travailleurs immigrés en Europe. Je ne sais pas encore quelle sera la forme finale de ce livre. Peut-être un roman, peut-être un livre qui n'entrera dans aucune catégorie. Mais je suis sûr d'une chose. Parmi les 11 millions de travailleurs immigrés en Europe et la 40 millions de personnes qui composent leur famille, restées pour la plupart dans leur ville ou leur village, mais dépendantes du salaire du travailleur absent, je veux que leur voix se fasse entendre dans les pages de ce livre. Chaque année, la misère contraint les immigrés à quitter leur lieu et leur culture d'origine pour effectuer la plus grande partie des travaux les plus sales et les moins payés de l'Europe industrialisée, où ils constituent l'armée de réserve du travail. Que pensent-ils du monde, d'eux-mêmes, de nous, de l'exploitation à laquelle ils sont soumis? Pour mener ce projet à bien, j'aurais besoin de voyager et de résider dans pas mal d'endroits. Il me faudra parfois emmener avec moi des amis turcs qui parlent turc, ou des amis portugais ou grecs. Je compte travailler de nouveau avec un photographe, Jean Mort, avec lequel j'ai fait le livre sur le médecin de campagne. Même en vivant modestement, ce qui devrait être le cas, et en voyageant de la façon la plus économique, ce projet de 4 ans reviendra environ à 10 000 livres. Où trouver cet argent? Je n'en avais pas la moindre idée. En ce qui me concerne, je n'avais pas un sou. Désormais, grâce au Booker Prize, nous allons pouvoir nous mettre au travail. Or, il n'est pas nécessaire d'être un romancier très subtil pour remonter depuis les 5 000 livres du prix jusqu'aux activités économiques qui l'ont rendu possible. Pendant plus de 130 ans, Booker McConnell a eu des intérêts commerciaux considérables dans les Caraïbes. La misère qui y règne actuellement est le résultat direct de cette exploitation et d'autres du même type. Conséquence de cette pauvreté, des centaines de milliers d'Antillais ont été forcés d'immigrer en Grande-Bretagne pour venir y travailler. Ainsi, mon livre sur les travailleurs immigrés sera-t-il directement financé par les profits réalisés sur leur dos ou sur celui de leurs parents et de leurs ancêtres? Mais il y a plus que cela. La révolution industrielle, ainsi que les inventions et la culture qui l'ont accompagnée et qui ont créé l'Europe moderne, a été financé à l'origine par les profits découlant de l'esclavage. Et la nature fondamentale des relations entre l'Europe et le reste du monde, entre les Noirs et les Blancs, n'a pas changé. dans G, il y a une image très importante, c'est celle de la statue des quatre morts enchaînés. C'est pourquoi je dois retourner ce prix contre lui-même. Et je me propose de le faire en le partageant d'une manière très spéciale. La moitié que je donnerai changera la moitié que je garde. Permettez-moi d'abord de présenter clairement la logique de ma position. Il n'est pas question ici de culpabilité ou de mauvaise conscience. Il ne s'agit absolument pas de philanthropie, ni d'un problème fondamentalement politique. Le problème, c'est celui de la possibilité de continuer à se développer en tant qu'écrivain. Autrement dit, il s'agit de ma relation avec la culture dont je suis issu. Quand le trafic d'esclaves n'existait pas encore, avant que l'Européen commence à se déshumaniser et devienne prisonnier de sa propre violence, il y a sûrement eu un moment où les Noirs et les Blancs se sont approchés les uns des autres, émerveillés de se trouver potentiellement égaux. Ce moment n'est plus. Désormais, le monde se divise entre esclaves potentiels et maîtres potentiels. L'Européen a introduit cette mentalité dans sa propre société. Elle fait maintenant partie de la manière dont il voit toute chose. Le romancier s'intéresse à l'interaction entre destin individuel et destin historique. Le destin historique de notre époque est en train de s'éclaircir. Les opprimés ont commencé à percer le mur de silence érigé dans leur esprit par leurs oppresseurs. En luttant contre l'exploitation et le néocolonialisme, mais seulement à travers et en vertu de cette lutte commune, il devient à nouveau possible pour les descendants des esclaves et des maîtres de s'approcher les uns des autres. Émerveillés par l'espoir d'être potentiellement égaux. Voilà pourquoi j'ai l'intention de partager le prix avec les Antillais qui, en Caraïbes comme en métropole, luttent pour mettre fin à leur exploitation. Le mouvement des Black Panthers, basé à Londres, a émergé des ossements laissés derrière elle par des entreprises comme Booker. Je veux partager ce prix avec les Black Panthers parce qu'ils résistent, à la fois en tant que Noirs et en tant que travailleurs. Résistent à l'exploitation des opprimés. Et parce que, grâce au Black People's Information Center, ils sont en relation avec les luttes menées en Guyane. Siège de la fortune de Booker McConnell à Trinidad et d'un bout à l'autre de la Caraïbe. Lutte dont le but est d'exproprier toutes ces entreprises. Vous savez comme moi que la somme allouée, si l'on cesse de la considérer comme un prix littéraire, est extrêmement réduite. Et mon projet concernant les travailleurs immigrés en Europe nécessite plus d'argent. Le mouvement des Black Panthers, lui, a besoin de bien plus d'argent pour financer son journal et ses autres activités. Mais le partage du prix signifie que nos buts sont les mêmes. Le reconnaître, c'est donner une clarification. Et à la fin, comme au commencement, la clarté compte plus que l'argent. John Berger, 23 novembre 1972.
Merci beaucoup, Claude, pour cette lecture qui nous emporte, et pas tant que ça, parce que finalement, on a là peut-être les prémices de ce qu'on appelle maintenant l'intersectionnalité. À un moment donné, on parle de, voilà, on est oppressé en tant que travailleur, on est oppressé en tant que noir. On a déjà là, eh bien, des oppressions qui s'ajoutent aux oppressions. Selon toi, et après, eh bien, on se tournera vers les personnes qui souhaiteraient poser des questions, selon toi, peut-on échapper à cette dichotomie d'être soit exploité soi-même, soit exploiteur, ou en tout cas contributrice ou contributeur à de l'exploitation?
je pense que notre situation en tant qu'artiste échappe un peu à ça. Voilà. On dépend bien sûr de, pas toujours d'ailleurs, de la générosité d'une société dans laquelle nous payons des impôts. Et ces impôts sont redistribués, et ces impôts étant redistribués, ils ne sont pas redistribués qu'aux grandes entreprises, ils peuvent être redistribués aussi, et ce serait un bienfait pour l'éducation et la culture. Et on sait que s'il n'y a pas d'éducation et il n'y a pas de culture, ben c'est la barbarie qui nous attend. Et voilà, toute réclame de baisse d'impôts, je trouve, est un manque de solidarité dans notre société. Voilà. Le travail que je fais là, dans les écoles, avec les 6-7 ans, je me dis que c'est vraiment extraordinaire, parce que à cet âge-là, dans les écoles publiques, il y a un mélange de population incroyable, et je trouve que ces enfants vivent bien ensemble, et je trouve que les enseignantes, c'est essentiellement des enseignantes, quelques enseignants qui s'en occupent, sont des gens tellement précieux. Alors si on leur demande est-ce que vous êtes engagé politiquement, elles vont vous répondre, je fais mon travail avec plaisir. J'aime faire ce travail. Donc c'est des gens, pour moi, vraiment, qui sont engagés. Et moi, je n'arrive là qu'en soutien pour les libérer, encore, c'est pas toujours le cas, mais pour les libérer pendant une heure et demie. Et je parle beaucoup avec elles des difficultés de leur métier. J'aime beaucoup aller dans la salle des professeurs la salle des maîtres avant de faire ma lecture et de voir un peu comment ça se passe entre les enseignantes, comment est installée la salle des maîtres. Et quand la salle des maîtres est vraiment très chaleureuse, je sais que la lecture va très très bien se passer. Et en général, ça se passe très bien.
Le théâtre du sentier, en soi, ça contient un cheminement. D'une certaine manière, on parle de sentier, on parle de chemin de traverse, d'aller vers, de rencontrer vers. On a des exemples, Garcia Lorca avec son théâtre ambulant, Mayakovsky qui prenait le train pour aller dire l'oppression des personnes, des travailleurs et des travailleuses exploitées dans l'URSS. Est-ce que ça fait partie de tes centralités, de tes intentions lorsque tu fondes, lorsque tu crées ce théâtre du sentier? Et le deuxième volet de la question, c'est selon toi, eh bien, voilà, est-ce que ça a un sens, justement, d'aller, non pas porter la bonne parole, mais porter la réflexion, là où peut-être on ne l'attend pas, ou en tout cas on l'attend moins?
C'est ce que dit John Berger. Dès que je lis un texte, qui n'est pas de moi, hein, moi je n'écris pas, dès que je lis un texte, ça fait marcher l'imagination. Y a des mots qui arrivent, qu'on retient. Souvent, je vois des gens à mes lectures tout d'un coup ferment les yeux. Après, ils me disent « Oh mon Dieu, je me suis endormi un petit moment. » Mais j'ai rattrapé la chose. Parce que tout d'un coup, un mot, une phrase peut entraîner un souvenir, un retour sur sa vie, sur un moment que peut-être on n'a pas compris, qu'on n'a pas forcément digéré, et puis qui tout à coup là ça devient ça devient clair parce que c'est un autre qui l'a écrit. C'est ce que dit John Berger déjà dans ce texte. Ça permet une réflexion, ça permet d'aller plus loin, et puis c'est bien d'aller plus loin à plusieurs.
Et de lire chemin faisant, d'apporter cette lecture dans des lieux justement où peut-être on s'y attend moins, ça fait partie également de cet engagement.
Oui, tout à fait. Alors, j'ai joué devant des salles de 1100 places. Oh, formidable. Je dirais même pas, c'est pas pour l'ego. C'est tout d'un coup, on se retrouve devant une salle de 1100 places. Je vois personne avant, je vois personne après. Alors que là, je vais dans un endroit, la personne s'excuse en disant oh, je ne peux pas mettre plus de 15-20 personnes, hein, c'est petit chez moi, parce que je lis aussi dans les appartements. C'est assez petit chez moi, qu'est-ce que vous allez penser, tout ça, comment je dois organiser les choses. Mais je dis, mais vous m'invitez chez vous, invitez les gens aussi chez vous. Et en général, ça se passe très très bien, parce que les gens ont une amie qui fait une cuisine indienne, elles invitent la personne qui fait la cuisine indienne, je fais ma lecture, ça sent les épices partout. Voilà, c'est pour ça que je fais des lectures assez courtes d'ailleurs, parce que quand ça sent tellement bon comme ça, il faut se laisser du temps pour bénéficier de tout ça, boire des verres, continuer à discuter avec des gens, à parler de ce qui est écrit, de l'auteur, et puis de, comme je disais tout à l'heure, de leur situation aussi, offrir un terrain de liberté.
Ces imaginaires-là, est-ce qu'on serait avisé, parce que tu en parlais tout à l'heure, c'est le fait de nourrir, d'empouvoiriser ces imaginaires, est-ce qu'on est là également dans de la résistance d'une certaine manière? Est-ce que le fait de pouvoir contempler le monde depuis une position dont les imaginaires sont florissants, sont multiples et on comporte toute forme, est-ce que ça c'est également selon toi une manière de résister, ben voilà, au monde qui nous encercle avec des fois ces abîmes et ces moments de crise?
Oui. C'est bien sûr que c'est une forme de résistance, puisque c'est dans les marges. Donc je sais plus qui disait c'est dans les marges, donc on est installé en pays ennemi. En pays ennemi par rapport à une société dans laquelle on vit, mais c'est quand même formidable là pour l'instant, hein, cette société dans laquelle on vit avec toutes ces divergences. Et il faut pas condamner trop vite non plus, il faut pas faire des séparations trop radicales. Il y a des gens partout qui ont une intelligence, qui ont une générosité, puis il y a des cons.
Alors pour les personnes qui sont ici et celles qui vont écouter ce que l'on dit, nos propos, comment est-ce qu'elles peuvent se tenir au courant de tes actualités? Parce qu'il y a, on n'a pas encore abordé, mais il y a toutes ces activités que tu fais au quotidien, que tu fais tout le temps ici à Genève. Voilà, alors des personnes qui auraient envie de t'accoster d'une certaine manière, et bien comment pourraient-elles le faire et comment pourraient-elles découvrir ton travail?
Voilà, j'aurais dû amener des cartes.
On mettra des liens sur Libellevue Podcast.
www.théâtredusentier.ch. Voilà.
Tout simplement.
Et là, vous pouvez vous inscrire à une newsletter qui rend compte de toutes les activités que je fais et que nous faisons, parce que je lis aussi avec des auteurs dans les librairies, les bibliothèques, tout ça. Vous inscrivez sur la newsletter et vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez.
Et alors, y a-t-il une actualité que tu aimerais peut-être citer ce soir, ces prochaines semaines? Est-ce qu'il y a quelque chose au programme?
Alors, je ne suis pas trop... Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là, ça doit être chargé pour vous hein, pendant ces fêtes ». Eh bien non, je ne lis, hein, lis pas vraiment pendant les fêtes, je ne lis pas de contes de Noël. Là, je suis... en plein travail administratif pour faire des dossiers, le bilan de l'année dernière, 89 lectures, c'est quand même beaucoup. Et puis, je suis en train de faire un dossier pour les subventions de l'année prochaine. C'est un gros travail d'administration. Je suis heureusement aidé par une dame extraordinaire qui s'appelle Jeanne Quattropani. Elle manie bien l'ordinateur et moi, pas du tout. J'écris des textes, j'écris ce que je pense faire, voudrais faire. Et voilà.
Et tes aspirations, alors, sont-elles constantes? Changent-elles à chaque fois que tu rencontres un auteur?
Qu'est-ce que tu entends
par aspiration? C'est ton devenir, vers quoi tu as envie de tendre et comment, depuis ta position, tu observes le monde?
Alors, écoute, moi, j'ai pas de... Quelle chance j'ai eu? J'ai pas d'objectif de réussite. Donc, je sais pas. C'est le chemin, c'est aujourd'hui, c'est même pas demain, c'est aujourd'hui. Voilà, je suis là, j'ai pas d'intention particulière en étant ici. On s'est rencontrés à la Fureur de Lire, on s'est dit tiens, ce serait pas mal. Oui, c'est pas mal, je suis là, et puis c'est tout. Et puis je rencontre le libraire de Fahrenheit. Peut-être qu'on va faire quelque chose ensemble, qui sait. Le cheminement, c'est extraordinaire, parce qu'il y a plein de gens sur le bord de la route, et sur les talus. Il y a des plantes extraordinaires, il y a des chemins dans la forêt qui sont extraordinaires, et il y a des gens magnifiques. Voilà. Un peu... excusez-moi, je suis un peu...
Non, mais c'est très bien. J'aurais envie de te proposer trois mots clés et tu les commenteras si tu le souhaites. Le premier, c'est lire. Le deuxième, c'est interpréter, justement parce qu'on en a parlé avant, que tu souhaites que l'on dise que tu lis les textes plutôt que tu les interprètes. Et le troisième mot clé, ce serait absorber. Comment est-ce qu'on livre une lecture d'un auteur? Est-ce qu'il faut aimer l'auteur? Est-ce qu'il faut le détester? Est-ce qu'il faut le connaître ou un peu le connaître mais pas trop?
Lire, je pense pas que j'aurais pu commencer à lire sans avoir quand même une bonne dizaine d'années, voire 15 années de travail de comédien derrière moi. Ceci dit, j'ai toujours fait une séparation entre le comédien et le lecteur. Alors le deuxième terme sur lequel tu m'interroges, c'est interpréter. J'essaye de ne pas interpréter. Je suis un passeur. S'il y a enthousiasme, l'enthousiasme il est dans l'écriture. Mais j'ai pas besoin de faire, tiens tu vois, je fais tomber le rideau. Et j'ai pas besoin de faire des choses. Je suis pas en mal d'être acteur, d'être sur une scène. Ensuite il y a le mot absorber. Alors je sais pas comment tu le conçois. Absorber. Oui, d'une certaine façon, j'absorbe. Heureusement, je digère aussi, je ne retiens pas tout dans ma tête, parce que comme je lis peut-être 10 livres pour en choisir un, ça fait beaucoup. Et puis que je change mes lectures quasi à chaque fois dans les librairies, les bibliothèques et tout ça, ça fait énormément de choses. L'autre chose qui est, qu'est-ce que c'est ma façon de lire, c'est une façon de m'interroger moi et de me faire comme une sorte d'autobiographie à l'intérieur des textes que je lis. Ce qui m'attire chez un auteur, c'est une réponse à des questions que je me pose, une sorte de résonance du vécu ou de choses vécues. Voilà, c'est ça l'absorption.
D'accord. Y a-t-il... Alors, deuxième partie de la question, c'était, faut-il détester ou aimer une autrice, un auteur, pour pouvoir la lire, la connaître ou la méconnaître un petit peu?
Alors, un auteur que je déteste, je ne le lirai pas. Parce que si je le déteste, c'est que je le déteste pour ses idées. Et là, alors, je ne m'aventurerai pas à jouer un second, voire un troisième, quatrième degré. Mais ceci dit, je me méfie de la détestation aussi. Il faut que ce soit surtout des prises de position politique et sociale qui me rebutent.
Doit-on extraire l'œuvre de son auteur ? Évidemment, je voulais t'amener, la question d'avant est celle-ci, à « Et le voyage au bout de la nuit de Céline ».
Alors, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Moi, je ne lis pas Céline.
Très bien, au moins c'est clair.
Voilà.
Y a-t-il des questions ? Ou bien je continue encore un tout petit peu ? Encore 5 minutes et puis on s'arrêtera là, si ça
va ? Moi, c'est comme tu veux.
Oh, ben, on parlait des auteurs tout à l'heure. On parlait de ceux que tu t'interdirais ou pas. Alors, y en a-t-il certains que tu t'interdis, des auteurs ou des sujets ? Et cela pour nous conduire au fait que, avant de parler, nous parlions des auteurs d'aujourd'hui, que tu voulais beaucoup mettre en avant. Est-ce là l'unique filtre ou y en a-t-il d'autres ?
Non, je lis des auteurs d'aujourd'hui et ceux que je m'interdis, ben, j'ai déjà répondu à la question.
Ouais. Mmh. Donc les auteurs d'aujourd'hui, pourquoi ?
Oui.
Pourquoi ce choix-là ?
Alors pourquoi ce choix-là ? Parce que d'autres gens lisent aussi des auteurs plus classiques. Et puis c'est souvent aussi comme au théâtre, on va voir ce qu'on croit connaître. Et donc il y a suffisamment de théâtre et de gens qui lisent. Toute une littérature fondamentale comme ça qui est très importante. Moi, ça fait partie des rapports que j'ai envie d'avoir aussi bien avec les gens, les auditrices et les auditeurs, qu'avec les auteurs. J'aime bien avoir ce rapport avec les auteurs. Il y a vraiment des gens dont j'attends le prochain livre. C'est des gens qui m'apportent beaucoup, qui sont formidables, et donc voilà, j'attends leur livre.
Faut-il les rencontrer ou les éviter, ces auteurs-là ?
Moi, j'aime bien les rencontrer. Mm-hmm. C'est vraiment des gens sympathiques, qui ont un point de vue sur le monde et qui sont prêts à le communiquer, et donc ça, c'est toujours enrichissant.
Prenons l'exemple de John Berger, ce que tu viens de lire. N'y a-t-il pas des rencontres que l'on fait sans rencontrer la personne ? Est-ce qu'une absence peut être une présence déguisée ?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a des textes ici, je ne sais pas combien il y a écrit de livres, je crois que... Moi, j'ai dû en lire 25. Peut-être qu'il y en a qui m'ont échappé. Mais bien sûr, il y a un dialogue qui s'installe, même si je ne bois pas des verres avec lui. Hein, et je ne pourrais plus maintenant.
Ces dialogues-là, est-ce que tu te les fabriques dans ton imaginaire à toi ? Je prends l'exemple du livre Rêve de rêve, où l'auteur fait rêver des figures de la littérature qu'il aime beaucoup, Garcia Lorca par ailleurs. Ouais,
Antonio Tabucchi,
merci beaucoup. Et par le fait de les faire rêver, eh bien, il les rencontre à nouveau et nous les fait les rencontrer.
Bien sûr, oui. Alors ça c'est formidable, il nous les fait rencontrer, moi je les rencontre, et puis de temps en temps je vais... C'est ça aussi la lecture, hein, c'est... tu lis un livre, ça parle d'un livre, quelqu'un te dit y a une préface, tu lis la préface, ça te renvoie à quelqu'un d'autre, c'est indéfini, c'est indéfini la lecture.
Eh bien, merci beaucoup, Claude. Nous allons immédiatement poursuivre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous, de nous avoir fait cette lecture-là. Et bien entendu, nous continuerons à nous voir et puis d'autres propositions émergeront. N'en est aucun doute. Merci beaucoup, en tout cas.
Ben voilà, merci à vous.